Nous te remercions pour ce temps d'avoir plus de communion dans ta parole. Et nous venons nouvellement à toi ce soir. Nous oublions tout ce qui est en arrière pour avoir plus de lumière et de vérité de toi. Ouvrons-nous encore plus ta parole dans Ésaïe. Montre-nous ta parole actuelle pour ton Église. Et que ton esprit puisse nous enseigner. Donne-nous cette compréhension spirituelle. Oui, cette sagesse spirituelle.
De grand de ta part. Illumine encore plus les yeux de notre cœur. Nous voulons t'expérimenter, nous voulons te gagner pour l'avancement. Nous avons pleinement confiance en toi. Nous n'avons pas confiance en nous-mêmes. À part toi, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Amène-nous de l'avant. Nous ne sommes pas ceux qui avons confiance en la chair. Et j'aimerais dire que très souvent, dans notre subconscience, nous pensons que nous pouvons le faire. Cela veut dire qu'intérieurement, nous pensons, oui, ça va bien. Je ne suis pas aussi mauvais que cela. Est-ce que tu penses toujours que ta chair ne vaut rien? Nous pensons souvent, ah, c'est pas si mauvais que ça, en ce qui me concerne. Nous sommes des personnes déchues. Quoique nous soyons nés de nouveau, la chair nous accompagne et notre moi est souvent présent. Et nous voyons cela dans notre comportement. Peut-être que nous-mêmes, nous ne le remarquons pas, mais Paul a dit dans Philippiens 3, verset 3. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Et afin de dire ceci, il faut un exercice. Lorsque Paul dit cela, ce n'est pas simplement un enseignement pour lui, mais il s'exerce. Il s'exerce de ne pas avoir confiance en sa chair. J'aimerais vous dire, j'aimerais vous encourager que spécialement en ce qui concerne les choses de Dieu. Dans ta vie, je n'ose pas dire, en ce qui concerne ta vie personnelle, là, je ne pourrais pas dire de manière si absolue qu'on ne doit pas avoir confiance en la chair. Mais Paul, un apôtre, un serviteur de Christ, est-ce que vous pouvez vous imaginer si lui, il avait confiance en la chair, s'il donnait de la place à sa chair? Et nous tous qui sommes pour le Seigneur, nous devons avoir cette conscience intérieure. Seigneur, je ne veux pas avoir confiance en ma chair. Nous devons même avoir peur de cela. Sinon, à la fin, nous aurons des problèmes. Et il a aussi dit, je fais tout, toutefois, non pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. il n'avait pas confiance en lui-même. Et si quelqu'un vit comme Paul, il ne peut pas être orgueilleux car il a la conscience. Et il s'est toujours exercé que c'est le Seigneur qui l'a fait et non pas lui. Il dit cela parce qu'il a expérimenté. Et dans Galates, il dit, et nous connaissons tous ce verset, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Si nous lisons l'Épître aux Galates, oh, c'est simplement de la foi, oui, c'est un beau verset. Toutefois, très souvent, nous nous vivons nous-mêmes, que cela soit à la maison, dans la famille, que ça soit dans beaucoup de choses pratiques, nous avons beaucoup d'opinions, mais nous ne pensons pas, comme Ésaïe a dit, que souvent nous sommes rebelles. Et nous prenons nos propres décisions, nous avons nos propres conceptions et nous ne posons pas la question au Seigneur afin d'obtenir une réponse de lui. S'il s'agit de sa chose, de Sion, s'il s'agit des choses spirituelles, alors nous devons servir avec crainte et tremblement. Et la crainte de Dieu. Dans Hébreu, nous devons l'honorer. Ensuite, il dit que pour moi vivre, c'est Christ. Six versets ont été écrits, ont été cités et sont très connus par beaucoup parmi nous qui sont dans l'Église depuis longtemps. Mais beaucoup de nous, on reconnaît qu'en fait, on connaissait ces versets, mais nous n'avons pas vécu selon ces versets. Et nous devons dire cela, c'est pour notre honte, c'est à notre honte. Nous devons nous exercer. Si nous ne nous exerçons pas, nous n'allons pas arriver. Et l'orgueil en est le résultat. Dans ton cœur, tu le penses. C'est, nous sommes les enfants rebelles, comme au chapitre 30. Nous sommes rebelles. Et ça, c'est le jugement du Seigneur. Ce n'est pas mon jugement. Je pense que je suis tout à fait obéissant. Ça, c'est comme moi, je juge. Mais son jugement est autrement. Je veux accomplir quelque chose. Nous discutons, nous nous réunissons, nous disons que c'est de la communion. Mais avec qui avons-nous de la communion? Moi avec toi et toi avec moi? Nous discutons, nous parlons de ce que nous allons faire. Et où demeure le Seigneur dans cette communion? Spécialement en ce qui concerne les affaires de l'Église. Nous prions 5 minutes et ensuite nous discutons pendant 2 heures. Est-ce que tu as déjà expérimenté cela? Malheureusement, c'est le cas. Nous faisons des plans sans que cela vienne de lui. Et nous concluons des alliances, nous parlons de l'esprit. Malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. Chapitre 30, verset 1. Et qui font des alliances sans ma volonté. Oh, c'est simplement mon opinion, mais est-ce que c'est un péché si je planifie quelque chose sans lui? Je n'ose pas dire. Lorsqu'il s'agit de tes affaires personnelles, mais j'aimerais vous dire que lorsqu'il s'agit de sa maison, de Sion, de son royaume, de son œuvre, si tu fais des plans à ce niveau-là, sans son esprit, alors tu vas accumuler péché sur péché. Nous n'avons pas la crainte du Seigneur, nous pensons que cela va bien. Oh, c'est un plan, et si cela ne marche pas, nous allons changer ce plan. Ce n'est pas étonnant qu'avec le temps, tout descend. Et le Seigneur dit que c'est ça être rebelle. Je ne sais pas ce que nous pensons, qu'est-ce que c'est la rébellion qui descend en Égypte sans me consulter. Il ne me demande pas de conseil. Verset 2. Peut-être vas-tu dire, oui, je prie, je demande au Seigneur, montre-moi, mais après mon amen, je prépare mes propres plans. Tu n'as pas la patience de l'attendre. Tu n'as pas de patience. Et souvent, tu sais ce que tu veux et tu le lui demandes. C'est comme ça. C'est devenu une sorte de routine. Oh, j'ai demandé. Mais cela ne veut pas dire que tu es prêt à accepter son conseil. Pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Verset 2. Nous utilisons des méthodes mondaines, des pensées mondaines, une puissance naturelle. Ce qui leur est arrivé nous arrive aujourd'hui. Nous ne devons pas seulement parler pour eux ou lire quant à leur sujet, mais il s'agit de notre condition aujourd'hui. C'est pourquoi Paul dit que nous sommes ceux qui n'ont pas confiance en la chair. C'est facile à dire. Mais ce n'est pas si facile à accomplir cela. C'est pourquoi le Seigneur doit nous exposer. Mais nous savons que c'est très difficile d'être mis en lumière, que la lumière du Seigneur brille sur nous. Je crois que vous comprenez ce que je veux dire. C'est notre expérience. Puisse le Seigneur nous sauver et juger. Lorsque le Seigneur nous juge, souvent nous ne changeons pas. Nous voulons être sauvés, mais nous ne voulons pas accepter son jugement. Maintenant, la section 4. Après avoir été exposé, après avoir été jugé, bien sûr qu'il y a tout ce qui est positif après le châtiment, donc. Nous avons la consolation de Dieu pour Jérusalem. Il ne s'agit pas de son jugement. Il est très équilibré. Il est plein de sagesse, plein d'amour. Et c'est justement parce qu'il nous aime qu'il nous juge. Et je remercie le Seigneur parce que son jugement pour nous aujourd'hui, n'es-tu pas d'accord avec son jugement que nous voyons dans Ésaïe? Et nous sommes reconnaissants parce que le Seigneur nous juge. Nous avons vu que c'est nécessaire. Mais avec le jugement, il y a toujours la consolation. Et nous en avons aussi besoin. Et Paul dit que Dieu est le Dieu de toute consolation. Le connais-tu? Venons maintenant au chapitre 40. Et la consolation de Dieu envers nous, ça vient toujours par Jésus-Christ. Dieu ne nous console pas seulement avec des paroles. Son Fils est la vraie consolation. C'est pourquoi, au verset 1, nous lisons « Consolez, consolez mon peuple ». C'est même une déclaration. C'est mieux que de dire « malheur à vous ». C'est pas seulement des malheurs. On a aussi besoin de ces malheurs. Mais si on a seulement les malheurs, « malheur à vous », alors on va être trop déprimé. Maintenant, c'est « consoler, consoler mon peuple ». Et nous devons aussi apprendre cela de Dieu. À la maison, tu ne peux pas toujours reprendre les enfants. Tu dois aussi les consoler. Mais il ne faut pas non plus seulement les consoler, s'il vous plaît. C'est normal. On ne doit pas être juste... avoir un côté. Il y a le jugement, il y a le jugement et aussi la consolation. Nous avons besoin tous de la consolation du Seigneur. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui. Que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée. Dieu leur pardonne, mais il ne leur pardonne pas seulement. Dieu ne peut pas simplement dire « ça va », qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Nous voulons seulement avoir du pardon et nous pensons toujours que Dieu va nous pardonner. Il va nous pardonner sans jugement, sans discipline. Ne pensez pas que Dieu est seulement un Dieu qui est plein de pardon et non de discipline. Après la discipline, nous avons sa consolation. Ça, c'est notre Dieu merveilleux qui n'est pas seulement amour, mais aussi jugement. Nous n'avons pas seulement le pardon, nous avons aussi la discipline. Et la discipline, le châtiment de Dieu vient de son amour. Maintenant, nous voyons quelle consolation il y a. Et dans ce passage, nous voyons toujours plus de la révélation de notre merveilleux Sauveur Jésus-Christ. Sans lui, il n'y a pas de consolation. À partir de ce chapitre, nous voyons que Dieu montre qui il est. Verset 3. Cela commence. Une voix crie. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Maintenant, on va prendre le résumé. La première révélation de la consolation de Dieu envers Jérusalem, c'est la venue du Messie. Il est la vraie consolation. La consolation de Dieu ne s'agit pas seulement de paroles vides. Ce n'est pas simplement une belle parole, une parole de l'encouragement. La vraie consolation, c'est le Messie, c'est la venue du Messie. Matthieu 3. Au temps d'Ésaïe, à peu près 750 ou 60 ans avant Jésus-Christ, Ésaïe a déjà prophétisé que le Messie viendrait. Et comment il viendrait? C'est incroyable. C'est son précurseur qui a aussi parlé de cela. Lisons ensemble. Chapitre 3, 1 à 3. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Déjà dans l'évangile de Matthieu, nous voyons que Ésaïe a été cité, la parole a été accomplie. Pouvez-vous vous imaginer cela? Quelle parole d'Ésaïe! Il ne parle pas immédiatement du Messie, mais il parle aussi du précurseur. Il montre comment le Messie va venir. Et qui va le présenter? C'est tellement exact. C'est merveilleux. Il est le précurseur. C'est la voix de celui qui parle, qui crie. C'est aussi significatif. Nous ne sommes que des voix. Nous ne sommes rien d'autre que des voix. Nous pensons que nous sommes doués pour parler, que nous pouvons donner de bons messages. Mais Ésaïe dit que nous ne sommes qu'une voix. Cela veut dire que nous n'apparaissons pas, nous ne sommes pas sur le devant, nous sommes une voix. Tout le reste vient de lui. Est-ce que tu es prêt à être qu'une voix? Ou bien est-ce que tu es cette voix? J'espère que non. Cela veut dire que Jean devait toujours dire non, je ne le suis pas. Beaucoup sont venus vers lui et ont demandé, qui es-tu? Es-tu le Messie? Et il a dit, non, je ne suis qu'une voix. Louez le Seigneur. C'était un tel précurseur. C'est très rare de trouver une telle personne. Une voix, c'est ici la voix de celui qui crie. Combien souvent devait-il dire, non, je ne le suis pas. C'est lui. Et ensuite, il a dit, lui, il doit croître. Et moi, je dois diminuer. Cela veut dire que même sa voix devait devenir de plus en plus douce. Malheureusement, plus nous parlons, plus nous grandissons. Spécialement si tu sais bien parler. Celui qui diminue et toi, tu t'agrandis. Souvent, c'est comme cela. C'est souvent justement le contraire. Mais ici, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Et ça a été annoncé par le prophète Ésaïe. C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, pas dans la salle de réunion. Aujourd'hui, c'est facile. Nous avons même des microphones. Tout est préparé. Mais ce n'était pas comme cela pour Jean-Baptiste. Une voix qui crie dans le désert. Il n'y a pas de prérequis pour cette voix. Si nous n'avons pas ces conditions préalables, nous ne pouvons plus prêcher. Alors nous aurons des problèmes. Nous sommes gâtés. Est-ce que tu n'es pas gâté? Oui, on a de belles chaises en ce temps-là. Il n'y avait pas de chaises dans le désert. Il y avait du sable et puis il n'y avait pas, bien sûr, de climatisation. On dirait, oh non, je ne supporte plus cette chaleur. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un bon environnement pour prêcher l'Évangile. C'est tellement confortable, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous sommes vraiment gâtés. Ésaïe a dit, c'est une voix. Nous sommes même dans un hôtel de 4 étoiles pour la conférence. Et bien sûr que la nourriture, elle doit être bonne. Sinon, je ne viens plus à la conférence. Et toi non plus. Seigneur, cela montre que toute la situation, ce temps-là, c'était comme un désert, c'était vide, un pays desséché, misérable. La condition était misérable. C'était comme un désert. Savez-vous, si nous avons des yeux spirituels, nous verrons que c'est un désert. C'est un désert. Et rien, aucune rue n'est droite. Tout est tordu. C'est tellement tordu. Rien n'est à plat. Chacun fait sa chose. Chacun suit son propre chemin. Et ce ne sont pas des chemins droits, mais des chemins tordus. Lorsque Jean est venu, c'était le temps du Messie et tout était tordu. Pour cela, c'est écrit « Préparez le chemin du Seigneur ». Aplanissez ses sentiers. Préparez un chemin pour notre Dieu. Et aujourd'hui, nous devons faire cela. Car le Messie va revenir sur terre. Et qui va préparer son chemin? Penses-tu que le Seigneur vient simplement et que personne ne prépare son chemin? Lors de sa première venue, il avait besoin d'un Jean-Baptiste. Il avait besoin de cette voix pour préparer le chemin, pour aplanir le chemin. Est-ce qu'il n'a pas besoin de son Église aujourd'hui qui prépare, qui aplanit un chemin, un sentier pour sa venue? Pensez-y. Ou bien, est-ce que le Seigneur doit simplement venir? En d'autres mots, s'il n'y a pas de vainqueur aujourd'hui, s'il n'y a pas de frères et sœurs fidèles, s'il n'y a pas de prémices, s'il n'y a pas des personnes qui sont fidèles et qui font les choses de manière droite, qui disent la vérité, pensez-vous que le Seigneur peut venir? Est-ce qu'il peut revenir? Autrement dit, si l'épouse ne se prépare pas, penses-tu que l'époux va venir? Tu vas te marier, mais ton épouse, elle dort encore ou bien elle est allée en vacances. Tu ne sais même pas où elle se trouve. Tu ne sais pas ce qu'elle fait. Alors, comment est-ce que tu peux venir comme époux? Tu ne peux pas venir. L'époux ne peut pas venir. Nous avons beaucoup d'idées et nous pensons que le Seigneur revient, mais qu'est-ce que tu vas faire quand il revient? Est-ce que Pierre n'a pas dit que nous pouvons hâter sa venue? Mais est-ce que nous hâtons vraiment sa venue? Nous pensons que tout est tellement facile, mais ce n'est pas si facile. Nous nous disputons toujours. Est-ce que vous pensez que le Seigneur va revenir pour si on est en train de se disputer? Ou il va revenir à cette division, chacun fait son propre truc? Est-ce qu'il a du plaisir? C'est même une honte. L'ennemi va lui dire, mais pourquoi viens-tu? Qu'est-ce que tu vas recevoir quand tu reviendras? Où est ton épouse? N'est-ce pas une honte si l'époux vient et que l'épouse s'est taillée? Certainement, c'est déjà arrivé. À la dernière seconde, elle ne peut pas faire face. Notre Seigneur ne va pas venir si nous ne sommes pas prêts. Croyez-le-moi. Et ici, nous voyons que le Seigneur nous donne une révélation. Le Messie vient. Et comment vient le Messie? S'il n'y a pas un précurseur qui va témoigner et qui va dire, voilà celui qui doit venir. Et ce n'est pas une personne tordue. Jean-Baptiste, il vient avec l'esprit d'Élisée. C'était un homme courageux. À la fin, il a pensé que c'était le seul qui restait. C'est aussi un reste, un petit reste. Au temps d'Acab. Qui a combattu contre Jézabel? Elle a lancé un défi à Élie. Et c'est avec cet esprit-là que Jean-Baptiste est venu. Aujourd'hui, notre Seigneur qui va revenir comme le roi des rois pour régner, il a besoin d'un Jean-Baptiste coopératif. Qui va faire cela? Amen, frère. Et qui d'autre? Dieu a dit, qui est-ce que je peux envoyer? Il n'y avait personne. Il ne pouvait trouver personne. Et Dieu ne force personne. Que voulons-nous faire? Nous voulons seulement faire une œuvre chrétienne? Nous voulons avoir quelques expériences avec Christ? Nous voulons simplement être pour nous-mêmes? Est-ce que c'est suffisant? Non, certainement, ce n'est pas suffisant. Quelqu'un comme Jean-Baptiste en ce temps-là, beaucoup étaient réprimés. Ils étaient déprimés. Il y avait tant de difficultés. Ils se trouvaient sous pression. Ils étaient regardés aujourd'hui. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées. Il y avait les pharisiens, les anciens, les scribes. Eux, ils se trouvaient tout en haut. Et ils devaient être abaissés. Tout est à l'envers. Beaucoup de problèmes. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées. Ce n'est pas si simple que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Les quatre évangiles nous montrent que ce n'est pas si facile. Si, aujourd'hui, nous essayons d'aplanir ce chemin pour le Seigneur, pensez-vous que cela est facile? Qui va vous écouter? Et si tu es tellement droit, tu vas être méprisé, spécialement aujourd'hui dans ce temps où il y a tant de liberté. Tout est permis. Tu ne seras pas populaire si tu es droit. Ensuite, la gloire du Seigneur va se manifester. Et verset 6, une voix dit, crie, proclame, crie. Qu'est-ce qu'il doit crier et proclamer? Le Seigneur revient, c'est ce que tu vas proclamer? Et il répond, que crierai-je? On doit se demander, tu n'es qu'une voix, alors tu dois demander. Tu dois demander au Seigneur, d'accord, je ne suis qu'une voix, mais qu'est-ce que je dois proclamer? Toute chair est comme l'herbe. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? C'est une belle prédication. Est-ce que les gens veulent entendre cela? Tu dis, toute chair est comme l'herbe. va à l'université pour donner un discours et tu dis, toute chair est comme l'herbe. Montre-moi qui va venir si tu proclames cela. Marcus, donne un discours. Hein? Dis simplement, toute chair est comme l'herbe. Une conférence publique. Dis simplement que toute chair est comme l'herbe. Qui a cité? Pierre, il a cité cela. Toute chair est comme l'herbe. Tout est beau aujourd'hui, demain, c'est fini. C'est une vie courte. On doit dire cela aux personnes. Lorsque nous prêchons l'Évangile, et si nous n'osons pas dire ce que sont les personnes, alors comment pouvons-nous prêcher l'Évangile? Comment est-ce qu'ils peuvent accepter l'Évangile? Repentez-vous. Peu de personnes disent cela aujourd'hui. Proclamez. Toute chair est comme l'herbe et tout son éclat comme la fleur des champs. Ça ne dure pas. Combien de temps peux-tu vivre? On n'ose même pas dire combien de temps. Et à la fin, nous pensons que nous avons fait de bonnes choses, mais combien de temps cela va-t-il durer? Tout, rien n'est sûr. Même les choses spirituelles ne sont pas sûres. Peut-être qu'aujourd'hui c'est glorieux, mais la semaine prochaine c'est déjà corrompu. On doit proclamer la parole ainsi. L'herbe sèche, la fleur tombe. Quand le vent de l'Éternel souffle dessus, certainement, le peuple est comme l'herbe. Nous ne sommes rien. Et Jean-Baptiste, lui, il a proclamé cela, mais il doit aussi reconnaître qu'il est aussi ainsi. Il ne peut pas dire, oh, je suis un arbre, ça n'existe pas. Je suis un chêne. Tout est chair. Notre chair, c'est comme de l'herbe. Ce n'est rien. Mais les personnes pensent qu'elles sont pleines de valeur. Le vent ou le souffle de l'Éternel. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Seulement ce qui vient de lui va demeurer. Et ça compte aussi pour nous aujourd'hui dans l'Église. Ne pensez pas que nous avons fait une belle œuvre. Et c'est encore pire si tu penses que c'est ton œuvre, que cela sort de ta capacité. Lorsque tu penses cela, alors le souffle du Seigneur vient. Connaissez-vous cette fleur? Oui, connaissez-vous le pissenlit? En allemand, c'est le lion. Oui, bien sûr, dent de lion. Lorsqu'on souffle dessus, c'est fini. Sois-nous miséricordieux. Mais nous devons connaître cela comme la voix du Seigneur aujourd'hui. Si tu ne vois pas cela, à la fin, toutes tes œuvres vont échouer. Elles vont atterrir quelque part. Et c'est la parole du Seigneur que nous prêchons, rien d'autre. Et ce n'est pas ton choix. Le Seigneur a besoin de tels précurseurs. Ensuite, il dit, monte sur une haute montagne, Sion. Ça doit être cette nouvelle que nous annonçons, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix. Ne parle pas si doucement. N'aie pas peur. Ne crains pas. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Est-ce qu'ils vont accepter cette parole? Est-ce qu'ils seront offensés ou non? Il y aura de l'opposition, etc. Si tu es une telle personne, alors tu n'es pas comme Jean-Baptiste. Élève avec force ta voix. Avec force, pas doucement. Est-ce que tu connais Jésus-Christ? Ils ne vont pas entendre si tu parles ainsi. Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle, élève ta voix. Ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Nous devons parler avec courage. Paul, il a dit que lorsque j'ouvre ma bouche, je parle hardiment, que je proclame le mystère de Dieu. Nous avons un message merveilleux, une bonne nouvelle. Nous avons un Dieu merveilleux. Alors pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu honte? Paul, il dit qu'il n'a pas honte de l'évangile de Christ parce que c'est une puissance de Dieu. Bien sûr, tous les gens ne vont pas accepter la parole, mais ceux qui sont appelés par Dieu, ceux qui cherchent, ils vont l'accepter. Il y aura bien sûr de l'opposition, ça c'est évident. Ne crains point, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici, le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance. Et de son bras, il commande. Voici, le salaire est avec lui. Et les rétributions le précèdent. C'est merveilleux. Nous devons apprendre à parler avec assurance. Et nous devons parler avec courage, avec hardiesse. J'espère que nous sommes de telles personnes et que nous allons proclamer cette bonne nouvelle. Et là, vous remarquerez que l'autorité du Seigneur sera avec vous. C'est pourquoi le Seigneur a dit aux disciples, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et cet esprit qui reposait sur Jésus, c'est un esprit de puissance. Tu ne peux pas aplanir les sentiers sans puissance, mais c'est pas ta propre puissance, c'est ça. Puissance. C'est son autorité. C'est son autorité. Pourquoi en avons-nous besoin? Parce que l'ennemi invisible se trouve là. Lorsque le Messie vient, il va paître son troupeau. Verset 11. C'est le bon berger. il va perdre cet amour merveilleux. Il donne la vie, il prend soin. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. La brebis, elle s'occupe de son agneau. Ça, c'est l'autre aspect. D'une part, tu dois être hardi lorsque tu proclames la parole. Mais lorsque les gens viennent, tu dois les porter, tu dois les traiter avec soin, comme un berger. Ou est-ce que tu es seulement tellement fort que tu peux juste crier « Amen » ? Tu ne peux pas être hardi et courageux lorsque tu prends soin de quelqu'un. Lorsqu'on paie les autres, nous devons être comme de bons bergers. Il prendra les agneaux dans ses bras. Il est tellement doux, c'est merveilleux. Et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Ce sont des paroles merveilleuses que nous devons tous apprendre. On doit en prendre soin, on ne doit pas régner. Ce n'est pas quelqu'un qui dit « Toi, fais ceci ». Nous faisons cela dans l'Église. Et nous décidons de tout. Mais ensuite, le verset 12 est merveilleux. Tu dois savoir que ce Messie est le grand Dieu lui-même. Comme Ésaïe 9 nous le dit, son nom s'appelle le Dieu puissant. Ensuite, il demande, Dieu se montre lui-même. Malheureusement, il a dû le faire. En fait, son peuple aurait dû le reconnaître tout de suite. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Peux-tu faire cela? Quelle est la grandeur de la main du Seigneur? Il peut mesurer les eaux de toute la terre dans le creux de sa main. Combien d'eau peux-tu contenir dans ta main? Pouvez-vous vous imaginer la grandeur de la main de Dieu? Il peut mesurer, il sait exactement combien d'eau. Je ne connais personne d'autre qui pourrait faire cela. Il a pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure. Nous ne pensons même pas quelle est la quantité de poussière sur la terre, mais même chez nous à la maison, quelle quantité de poussière y a-t-il? On ne le sait pas. On ne peut pas mesurer cette poussière. Mais Dieu, lui, il sait exactement combien de poussière il y a. Quelles sont les dimensions des cieux? Qui a pris les dimensions des cieux avec la paume? Nous ne posons jamais ces questions-là. Est-ce que tu as déjà demandé, Seigneur, quelle est la grandeur des cieux? Nous nous réjouissons, mais nous ne pensons pas à Dieu. Qui a pesé les montagnes au crochet? Quel est le poids du Jungfraujoch? Toi, tu es en Suisse depuis bien des années, mais quel est le poids des Alpes? Si tu ne poses jamais ces questions, tu ne vas jamais connaître la grandeur de Dieu. Tu ne vas jamais savoir combien il est puissant. Et parfois, Dieu, il doit nous poser ces questions afin que nous nous réveillions. Ah non, je n'ai jamais pensé à cela. Ça montre qu'on ne pense pas trop souvent à Dieu. La grandeur. Combien Dieu est merveilleux. Il est plein de sagesse. Il est puissant. C'est le Tout-Puissant. C'est pourquoi il a souvent dit, « Je suis celui qui a créé les cieux et la terre. C'est moi qui les ai créés. » Et nous ne reconnaissons pas que notre Dieu est ce Dieu puissant. Et c'est pour cela que nous n'avons pas confiance en lui. Et on pense qu'il ne peut pas résoudre mes problèmes, quoi qu'il ait créé les cieux et la terre. Est-ce que ton problème est plus grand que le Jungfrau Joch? Est-ce que c'est aussi lourd que la montagne ou que le cervin? Alors, si Dieu a créé les cieux et la terre, et ça c'est tellement grand, il a tout mesuré, peut-être que tu ne le crois pas, mais Dieu sait combien les Rockies canadiens sont durs. Est-ce que toi tu sais quel est le poids des montagnes Rockies? J'ai pas entendu. Ah, il a dit des mégatonnes. Ah non, ça c'est pas suffisant. On peut pas juste répondre comme ça. Il y a combien d'eau dans l'océan Atlantique ou dans la mer du Nord? Combien de litres? Personne ne peut mesurer cela. Mais Dieu, lui, a mesuré. Le Seigneur a même dit combien de cheveux tu as. Il a compté tes cheveux. Il a même numéroté chaque cheveu. Et il a su, il sait quels cheveux tu as perdu. Il connaît tous les numéros de tes cheveux. Il a même numéroté les cheveux. Il ne les a pas juste comptés. Cela veut dire que le Seigneur, il connaît tout ce qui est grand, tout ce qui est petit. Connais-tu un tel Dieu? Penses-tu qu'il ne s'occupe pas de toi? Penses-tu qu'il ne peut pas t'aider, qu'il ne te comprend pas? Parce que nous ne connaissons pas ce merveilleux Christ, nous n'avons pas assez confiance en lui. Quand il y a des problèmes, nous ne croyons plus. Et si nous disons qu'il n'a pas répondu à ma prière, alors notre foi diminue. Oh, je ne crois plus en toi, Seigneur. Et nous commençons à douter. Qui a sondé l'Esprit de l'Éternel? Verset 13. Et qui l'a éclairé de ses conseils? Paul a aussi dit cela dans Romains. Qui est celui qui donne des conseils dans 1 Corinthiens? Qui est le conseiller? Qui peut donner un conseil? Est-ce que Dieu t'a déjà demandé un conseil? Ça, c'est une plaisanterie. Avec qui a-t-il délibéré pour recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Au chapitre 2 de 1 Corinthiens, Paul a dit, qui peut donner un conseil? Mais nous, nous avons la pensée de Christ. Seul le Seigneur connaît tout. Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence. Souvent, nous donnons des conseils à Dieu. Seigneur, tu devrais faire comme ça. J'en ai besoin. Nous voulons aider, mais nous voulons aussi lui dire comment il peut nous aider. Oh Dieu, aide-moi à trouver un travail, mais le travail, ça doit être comme ça, et je dois être payé tant et tant, et bien sûr les horaires, etc. Et il doit y avoir une bonne atmosphère au travail. C'est toi qui donnes des conseils à Dieu. Et concernant la vie de l'Église, Seigneur, tu dois faire ceci dans l'Église, tu dois aussi faire cela. Fais ceci, fais cela. Quelqu'un a répondu oui, c'est juste. C'est nous qui donnons des conseils. C'est nous qui donnons des conseils à Dieu. Verset 15. Nous devons vraiment avoir cette conscience que notre Dieu est grand. Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Pour Dieu, cette description d'Ésaïe est incroyable. J'aurais vraiment envie de le connaître. Cette description dit beaucoup de choses. Les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Est-ce que tu as peur des nations? Quand on voit les nations à l'Uni, il y a tant de professeurs, d'étudiants. Mais si tu te tiens avec Dieu, et si tu crois que ton Dieu est vraiment puissant, alors tu dois les voir comme une goutte d'un seau. Comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu. Le Liban ne suffit pas pour le feu. Tous les arbres qui se trouvent au Liban, c'est simplement comme un petit bout de bois. Quelle est la chaleur qui provient de tout ce bois? Et ces animaux ne suffisent pas pour l'Holocauste. Trop peu. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Tu dois apprendre à voir toutes les choses comme Dieu les voit, et alors tu n'auras pas peur. Si nous connaissons un tel Dieu, nous sommes libres. Ensuite, tu vas servir autrement. Et ta relation avec lui, ton expérience de lui sera aussi différente. Malheureusement, nous ne connaissons pas ce grand Dieu puissant assez. Nous disons qu'il est Dieu et nous disons qu'il est puissant, mais quelque part ce n'est que de la foi. mais nous ne l'avons pas saisi comme cela dans notre cœur. Nous ne l'avons pas connu ainsi. Et j'espère que pendant ces quelques années avant la venue du Seigneur, nous allons vraiment saisir ce Dieu merveilleux et que nous allons le saisir ensemble. Pour cela, nous devons être fortifiés dans l'homme intérieur, comme Paul l'a dit dans Éphésiens 3. Pourquoi notre homme intérieur doit être fortifié? Pas afin que nous soyons forts, mais afin que nous soyons forts pour saisir toutes les dimensions de Christ. On utilise la force à la mauvaise place. Nous avons besoin de la force pour saisir toutes les dimensions de Dieu. Et dans le degré que vous connaissez ce Dieu vivant, alors ton service va correspondre à ta connaissance de ce Dieu. Toutes les nations sont comme rien devant lui. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. En allemand, c'est « elles sont moins que néant et vanité ». Aux yeux de Dieu, elles sont moins que rien. J'apprécie cela depuis que je lis le livre d'Ésaïe. Est-ce que les anciens sont grands? Non, ils sont moins et encore moins que rien. Nous sommes tous rien. Personne n'est quelque chose aux yeux de Dieu. Peut-être à mes yeux, ils sont tous grands, mais aux yeux de Dieu, ils sont tous petits, comme non existants. Pour lui, ils sont comme le néant. Quel Dieu nous avons. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image? Une idole? Ça, c'est une offense si on le compare à une idole. C'est un ouvrier qui fond l'idole et c'est un orfèvre qui la couvre d'or. Je n'ai plus besoin de lire ces versets-là parce que c'est du non-sens de comparer Dieu aux idoles. Notre Dieu est si grand, si glorieux, si vivant. Verset 22. Celui qui est assis au-dessus du cercle de la terre et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Le Seigneur, il a étendu les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente. Vous devez lire tous ces versets vous-même. Lisez-les simplement. Verset 26. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il y a combien d'étoiles? Tu ne les as pas comptées à cette impossible. Mais le Seigneur a donné un nom à chaque étoile. Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Lisez de nouveau tous ces versets afin qu'on puisse connaître Dieu, ce grand Dieu. Et à un certain moment, vous allez vraiment commencer à être impressionné par notre grand Dieu. Notre Dieu n'est pas petit. C'est déjà une offense si on dit cela. Mais ici, on peut voir toute sa grandeur. Si nous avons un tel Dieu, quel problème avons-nous? Rien. Louez le Seigneur. Verset 27. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée ou mon chemin est caché devant l'Éternel. Nous sommes comme cela. Oh, il ne me connaît pas. Il ne me comprend pas. Il ne peut pas m'aider. Il ne connaît pas mon problème. Ah, c'est fini pour moi. Nous aimons dire cela. Alors, ton Dieu est plus petit que toi. Nous disons, mon chemin est caché devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. Seigneur Jésus, nous sommes fatigués ou nous fatiguons ou nous nous lassons. On ne peut sonder son intelligence. C'est insondable. Nous devons aussi savoir cela. Notre intelligence est tellement limitée, mais la sienne est insondable. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents ou les garçons se fatiguent. Normalement, les garçons, ils ont plein d'énergie. Mais ici, c'est dit, ils se fatiguent. À un certain moment, ton fils, il se fatigue, heureusement. Et les jeunes hommes chancellent. Le verset 31 est précieux pour nous tous. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Est-ce que tu crois cela? Amen.
Amen.
Amen. Après avoir vu et expérimenté le Seigneur, c'est facile à croire cela. C'est notre expérience. Et nous voulons tous expérimenter cela pour aller de l'avant et persévérer jusqu'à la fin. C'est égal si la route est difficile, s'il faut grimper ou non. Il y a toutes sortes de difficultés, peut-être, mais nous ne serons pas fatigués. Et même si c'est tellement difficile, c'est très, très difficile, nous allons monter. Nous allons prendre notre vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Parfois, nous devons utiliser les ailes de l'aigle et nous recevons une nouvelle force. Mais c'est ceux qui se confient en l'Éternel. Dans le sens de persévérer, d'insister. Nous en avons besoin. Dieu veut nous donner un tel Christ. Et si nous voyons ce Dieu, nous serons consolés, réconfortés en chaque situation. C'est pas juste un peu de foi, oh Dieu, aide-moi. Tu ne crois même pas que Dieu le peut. Et même si tu crois, ta foi est si petite. C'est pourquoi le Seigneur leur a dit souvent, crois-tu? Et souvent, il a dit, pourquoi votre foi est si petite? Parce que nous n'avons pas vu ce grand Dieu merveilleux. Et nous devons apprendre cela par la parole d'Ésaïe. Car si Dieu fait son œuvre, il a besoin de personnes qui le connaissent. Ensuite, nous pouvons véritablement dire, pour Dieu, toutes choses sont possibles. Ce n'est pas simplement un verset, une déclaration, mais nous devons le voir dans sa grandeur, dans toute sa puissance. Ensuite, tu peux dire, toutes choses sont possibles pour ce grand Dieu merveilleux. Et personne ne peut nous arrêter. Louez le Seigneur. Ce soir, nous devons prendre ce grand Dieu comme notre consolation, comme notre réconfort. La consolation dépend du fait si tu le connais ou tu ne le connais pas. Sinon, tu ne peux pas être réconforté. Oh, je ne peux pas vaincre cela. Ça, c'est impossible. Oh, je suis tellement faible. Il ne connaît pas mon chemin, il ne connaît pas ma faiblesse, alors tu n'es pas réconforté, consolé. Mais si tu vois ce Dieu merveilleux, il n'y a pas de problème. Ensuite, tu as une grande consolation, une grande assurance. Paul dit, je peux faire un peu. Qu'est-ce qu'il dit? Je peux tout faire. Pourquoi Paul peut-il dire cela? Parce qu'il a lu le chapitre 40 d'Ésaïe. C'est parce qu'il a reçu une révélation de la grandeur de ce Dieu. Je peux tout faire par celui qui me rend puissant. Certainement, qu'il a lu le dernier verset du chapitre 40. C'est pour cela qu'il n'était pas fatigué. Et il a poursuivi sa course jusqu'à la fin. Il a couru jusqu'à la fin. Il a atteint le but. Il a combattu le bon combat et il était prêt à donner sa vie en martyr. Louez le Seigneur. J'espère que le Seigneur puisse nous ouvrir les yeux afin que nous le connaissions comme Paul le dit. Pas seulement un peu, on ne doit pas penser qu'on le connaît. Ça, c'est le désir de Paul, c'est de le connaître pleinement, c'est de le connaître encore plus, c'est de le gagner. Dans Philippiens, il dit, « J'aimerais le connaître. » Paul n'était pas satisfait de le connaître juste un peu plus. Il voulait le saisir. C'est pour cela qu'il a été saisi par Christ. Nous avons besoin d'une telle attitude aujourd'hui afin d'arriver au but. J'aimerais le connaître. Je ne veux pas connaître quelques miracles. Le peuple avait vu beaucoup de miracles. Ils sont sortis de l'Égypte. Ils ont vécu 40 ans dans le désert. Toutefois, ils ne le connaissaient pas. Parce que nous sommes concentrés sur certaines choses extérieures et non sur sa personne. C'est pourquoi il est écrit que le peuple a vu ses œuvres, mais que Moïse le connaissait. Si tu le connais, les œuvres ne jouent aucun rôle. Si tu as seulement les œuvres, tu ne vas pas le connaître. Et il s'agit de connaître ce grand Dieu merveilleux comme il est. Et c'est la vision qu'Ésaïe a vue. Après l'avoir vu sur le trône, après avoir vu sa gloire et sa sainteté, ça l'a fortifié à accomplir cette œuvre. C'est une œuvre difficile. C'était pas seulement quelques miracles. Nous avons besoin de cette vision. On peut encore prier.